Chapitre 8. Les femmes s'en mêlent. Maillard général. À Versailles, la cour faisait de l'héroïsme contre le peuple. À Paris, on faisait de la chevalerie contre la cour. Seulement, la chevalerie courait les rues. Ces chevaliers du peuple erraient en haillons, la main sur la poignée d'un sabre ou la crosse d'un pistolet, interrogeant leurs poches vides et leurs estomacs creux. Tandis qu'à Versailles, on buvait trop, hélas, à Paris, l'on ne mangeait point assez. Trop de vin sur les nappes de Versailles, pas assez de farine chez les boulangers de Paris. Étrange chose, sombre aveuglement qui, aujourd'hui que nous sommes faits à toutes ces chutes de trône, arrachera un sourire de pitié aux hommes politiques. Faire de la contre-révolution et provoquer à la bataille des gens affamés, hélas, dira l'histoire, obligé de se faire philosophe matérialiste, jamais peuple ne se bat plus cruellement que lorsqu'il n'a pas dîné. Il était bien facile cependant de donner du pain au peuple, et alors bien certainement le pain de Versailles lui eût paru moins amer. Mais les farines de Corbeil n'arrivaient plus. C'est si loin de Versailles, Corbeil. Qui donc près du roi ou de la reine eût songé à Corbeil? Malheureusement, à cet oubli de la cour, la famine, ce spectre qui s'endort avec tant de peine et qui s'éveille si facilement, la famine était descendue, pâle et inquiète, dans les rues de Paris. Elle écoute à tous les coins de rue, elle recrute son cortège de vagabonds et de malfaiteurs, elle va coller son visage sinistre aux vitres des riches et des fonctionnaires. Les hommes se souviennent des émeutes qui coûtent tant de sang. Ils se rappellent la Bastille, ils se rappellent Foulon, Berthier, Flessel. Ils craignent d'être appelés encore une fois assassins et ils attendent. Mais les femmes qui n'ont encore rien fait que souffrir, les femmes qui souffrent, triple souffrance pour l'enfant qui pleure et qui est injuste parce qu'il n'a pas la conscience de la cause, pour l'enfant qui dit à sa mère « Pourquoi ne me donnes-tu pas de pain ?» Pour le mari qui, sombre et taciturne, quitte la maison le matin pour revenir le soir, plus sombre et plus taciturne encore. Enfin, pour elle, écho douloureux des souffrances conjugales et maternelles. Les femmes brûlent de prendre leur revanche, elles veulent servir la patrie à leur façon. D'ailleurs, n'était-ce pas les femmes qui avaient fait le 1er octobre à Versailles? C'était au tour des femmes de faire le 5 octobre à Paris. Gilbert Billot était au Palais Royal, au Café de Foix. C'était au Café de Foix que se faisait l'émotion. Tout à coup, la porte du café s'ouvre, une femme entre tout effarée. Elle dénonce les cocardes blanches et noires qui, de Versailles, sont passées à Paris. Elle proclame le danger public. On se rappelle ce qu'avait dit Charny à la reine. « Madame, il y aura véritablement à craindre quand les femmes s'en mêleront. » C'était aussi l'avis de Gilbert. Aussitôt, voyant que les femmes s'en mêlaient, il se retourna vers Billot et ne prononça que ces quatre mots à l'hôtel de ville. Depuis, la conversation qui avait eu lieu entre Billot, Gilbert et Pitou, à la suite de laquelle Pitou était retourné à Villers-Cotterêts avec le petit Sébastien Gilbert, Billot obéissait à Gilbert sur un mot, sur un geste, sur un signe, car il avait compris que s'il était la force, Gilbert, lui, était l'intelligence. Tous deux s'élancèrent hors du café, coupèrent diagonalement le jardin du Palais Royal, traversèrent la cour des Fontaines et atteignirent la rue Saint-Honoré. À hauteur de la halle, ils rencontrèrent une jeune fille qui sortait de la rue des Bourbonnais en battant le tambour. Gilbert s'arrêta étonné. « Qu'est-ce que cela ? » demanda-t-il. « Dame, vous voyez, docteur, » répondit Billot, « une jolie fille qui bat le tambour et pas trop mal, ma foi. » « Elle aura perdu quelque chose, » dit un passant. « Elle est bien pâle, » reprit Billot. « Demandez-lui ce qu'elle veut, » fit Gilbert. « Eh, la jolie fille, » fit Billot, « qu'avez-vous à battre ainsi la caisse ?»« J'ai faim, » répondit la jolie fille, d'une voix grêle et stridente, et elle continua sa marche et ses roulements de tambour. Gilbert avait entendu. « Oh, voilà qui devient terrible, » dit-il. Et il regarda plus attentivement les femmes qui suivaient la jeune fille au tambour. Elles étaient hâves, chancelantes, désespérées. Parmi ces femmes, il y en avait qui n'avaient pas mangé depuis 30 heures. Du milieu de ces femmes partait de temps en temps un cri menaçant par sa faiblesse même, car on sentait que ce cri sortait de bouches affamées. « À Versailles » criait-elle, « à Versailles !» et sur leur chemin, elle faisait signe à toutes les femmes qu'elle s'apercevait dans les maisons et appelait les femmes qu'elle voyait aux fenêtres. Une voiture passa, deux dames étaient dans cette voiture. Elles passèrent leur tête aux portières et se mirent à rire. L'escorte de la tambourineuse s'arrêta. Une vingtaine de femmes se précipitèrent aux portières, firent descendre les deux dames et les adjoignirent au groupe, malgré leur récrimination et une résistance que deux ou trois horions vigoureux éteignirent sur le champ. Derrière ces femmes, qui s'avançaient lentement, vu la besogne de recrutement qu'elles faisaient tout le long de la route, marchait un homme, les deux mains dans les poches. Cet homme, au visage maigre et pâle, à la taille longue et mince, était vêtu d'un habit gris de fer, veste et culotte noire. Il portait un petit tricorne râpé, placé obliquement sur le front. Une longue épée battait ses jambes maigres mais nerveuses. Il suivait, regardant, écoutant, dévorant tout de son œil perçant qui roulait sous ses sourcils noirs. « Hé, mais dit Biot, je connais cette figure, je l'ai vue dans toutes les émeutes. »« C'est l'huissier Maillard, dit Gilbert. »« Ah oui, c'est cela, celui qui passa après moi sur la planche de la Bastille. Il a été plus adroit que moi, lui, il n'est pas tombé dans les fossés. » Maillard disparut avec les femmes au tournant de la rue. Biot avait bien envie de faire comme Maillard, mais Gilbert l'entraîna avec lui à l'hôtel de ville. Il était bien certain que c'était toujours là que l'émeute revenait, que ce fût une émeute d'hommes ou une émeute de femmes. Au lieu de suivre le cours du fleuve, il allait droit à son embouchure. On savait à l'hôtel de ville ce qui se passait dans Paris, mais à peine s'en occupait-on. Qu'importait en effet au flegmatique bailli ou à l'aristocrate Lafayette que l'idée fût venue à une femme de battre le tambour? C'était une anticipation sur le carnaval, voilà tout. Mais quand, à la suite de cette femme battant le tambour, on vit arriver 2 ou 3 000 femmes, quand, sur les flancs de cette troupe, qui, de minute en minute, allait s'augmentant, on vit s'avancer une troupe non moins considérable d'hommes souriant d'une façon sinistre et tenant au repos leurs armes hideuses, quand on comprit que ces femmes souriaient d'avance du mal que les femmes allaient faire, mal d'autant plus irrémédiable qu'on savait bien que la force publique ne sévirait pas avant le mal et que la force légale ne punirait point après, l'on commença de comprendre toute la gravité de la situation. Ces hommes souriaient parce que le mal qu'ils n'avaient point osé faire, ils étaient bien aises de le voir faire à la plus inoffensive moitié de genre humain. Au bout d'une demi-heure, il y avait 10 000 femmes réunies sur la place de Grève. Ces dames, se voyant en nombre suffisant, commencèrent à délibérer le poing sur la hanche. La délibération ne fut point calme. Celles qui délibéraient étaient pour la plupart des portières, des femmes de la halle, des filles publiques. Beaucoup de ces femmes étaient royalistes, et au lieu d'avoir l'idée de faire du mal au roi et à la reine, elles se seraient fait tuer pour eux. On eut entendu les éclats de cette discussion étrange par-delà la rivière, autour silencieuse de Notre-Dame, qui, après avoir vu tant de choses, se préparait à en voir de plus curieuses encore. Le résultat de cette délibération fut celui-ci. « Allons un peu brûler l'hôtel de ville, où il se fabrique tant de paperasses pour nous empêcher de manger tous les jours. » Justement, on s'occupait à l'hôtel de ville de juger un boulanger qui avait vendu du pain à faux poids. On comprend que plus le pain est cher, meilleur est une opération de ce genre. Seulement, plus elle est lucrative, plus elle est dangereuse. En conséquence, les habitués du réverbère attendaient le boulanger avec une corde neuve. La garde de l'hôtel de ville voulait sauver le malheureux et s'y employait de toutes ses forces, mais depuis quelque temps, on l'a vu, le résultat secondait mal ses philanthropiques dispositions. Les femmes se ruèrent sur cette garde, la rompirent, firent irruption dans l'hôtel de ville, et le sac commença. Elles voulaient jeter à la Seine tout ce qu'elles trouvaient, et brûler sur place tout ce qu'elles ne pouvaient emporter. Donc les hommes à l'eau, les murailles au feu. C'était une grande besogne. Il y avait un peu de tout dans l'hôtel de ville. Il y avait d'abord 300 électeurs, il y avait les adjoints, il y avait les maires. Ce sera bien long de jeter tous ces gens-là à l'eau, dit une femme de sens, une femme pressée. Ce n'est pas qu'ils le méritent peu, dit une autre. Oui, mais le temps manque. Eh bien, brûlons tout, dit une voix, c'est plus simple. On chercha des torches, on demanda du feu, Puis, provisoirement, pour ne pas perdre de temps, on s'amusa à pendre un abbé. L'abbé Lefèvre d'Ormesson. Heureusement, l'homme à l'habit gris était là. Il coupe la corde, l'abbé tombe de 17 pieds de haut, se foule un pied et s'en va en boitant au milieu des rires de toutes ses mégères. Ce qui faisait que l'abbé s'en allait si tranquillement, c'est que les torches étaient allumées, c'est que les incendiaires avaient déjà les torches aux mains, c'est qu'elles les approchaient des archives, c'est que 10 minutes encore et tout allait être en feu. Tout à coup, l'homme à l'habit gris se précipite et arrache tisons et flambeaux des mains des femmes. Les femmes résistent, l'homme les fustige à coups de torche, et tandis que le feu prend aux jupes, il éteint celui qui prenait déjà au papier. Qu'est-ce donc que cet homme qui s'oppose ainsi à la volonté terrible de 10 000 créatures furieuses? Pourquoi donc se laissait-on gouverner par cet homme? On a pendu l'abbé Lefèvre à moitié, on pendra bien cet homme tout à fait, attendu qu'il ne sera plus là pour empêcher qu'on le pende. Sur ce raisonnement, un cœur frénétique s'élève, qui le menace de mort, et à la menace se joint les faits. Les femmes entourent l'homme à l'habit gris et lui jettent une corde au cou. Mais Billot est accouru. Billot va rendre à Maillard le service que Maillard a rendu à l'abbé. Il se cramponne à la corde, qu'il coupe en deux ou trois endroits, avec un couteau bien acéré et bien tranchant, qui sert en ce moment à son propriétaire à couper les cordes, mais qui pourrait, dans un moment extrême, emmanché qu'il est d'un bras vigoureux, lui servir à autre chose. Et tout en coupant la corde en autant de morceaux qu'il peut, Billot s'écrie « Mais, malheureuse, vous ne reconnaissez donc pas l'un des vainqueurs de la Bastille, celui qui a passé sur la planche pour aller chercher la capitulation, tandis que moi je barbotais dans les fossés. Vous ne reconnaissez pas donc Monsieur Maillard ?» À ce nom, si connu et si redouté, toutes ces femmes s'arrêtent, on se regarde, on s'essuie le front. La besogne avait été rude, et quoiqu'on fût au mois d'octobre, il était permis de suer en l'accomplissant. Un vainqueur de la Bastille, et Monsieur Maillard, encore Monsieur Maillard, l'huissier au Châtelet, vive Monsieur Maillard! Les menaces se changent en caresses, on embrasse Maillard, on crie, vive Maillard! Maillard échange une poigne de main et un regard avec Billot. La poignée de main veut dire, nous sommes amis. Le regard veut dire « Si vous avez jamais besoin de moi, comptez sur moi ». Maillard a repris sur toutes ces femmes une influence d'autant plus grande qu'elles comprennent que Maillard a quelques petits torts à leur pardonner. Mais Maillard est un vieux matelot populaire. Il connaît cette mer des faubourgs qui se soulève d'un souffle et se calme d'un mot. Il sait comment on parle à tous ces flots humains lorsqu'ils vous donnent le temps de parler. D'ailleurs, le moment est bon pour se faire entendre. On fait silence autour de Maillard. Maillard ne veut pas que les Parisiennes détruisent la commune, c'est-à-dire le seul pouvoir qui les protège. Il ne veut pas qu'elles anéantissent l'état civil qui prouve que leurs enfants ne sont pas tous des bâtards. La parole de Maillard, inusitée, stridente, railleuse, fait son effet. Personne ne sera tué, rien ne sera brûlé. Mais on veut aller à Versailles. C'est là qu'est le mal. C'est là qu'on passe les nuits en orgie, tandis que Paris a faim. C'est Versailles qui dévore tout. Paris manque de blé et de farine parce que les farines, au lieu de s'arrêter à Paris, vont directement de Corbeil à Versailles. Il n'en serait pas ainsi si le boulanger, la boulangère et le petit Mitron étaient à Paris. C'est sous sobriquet qu'on désigne le roi, la reine et le dauphin, ces distributeurs naturels du pain du peuple. On ira à Versailles. Puisque les femmes sont organisées en troupes, puisqu'elles ont des fusils, des canons, de la poudre, que celles-ci n'ont ni fusils, ni poudre, ont des piques et des fourches, elles auront un général. Pourquoi pas? La garde nationale en a bien un. Lafayette est le général des hommes, Maillard sera le général des femmes. Monsieur Lafayette commande à ces fainéants de grenadiers, qui semblent une armée de réserve, tant ils font peu quand il y a tant à faire. Maillard commandera l'armée active. Sans sourire, sans sourciller, Maillard accepte. Maillard est général commandant des femmes de Paris. La campagne ne sera pas longue, mais elle sera décisive. C'est bien une armée que celle à laquelle commandait Maillard. Elle avait des canons dépourvus d'affût et de roues, c'est vrai, mais on les avait placés dans des charrettes. Elle avait des fusils, beaucoup manquaient de chiens ou de batteries, c'est vrai, mais aucun ne manquait de baïonnette. Elle avait une foule d'autres armes, bien embarrassantes, il est vrai, mais enfin, c'était des armes. Elle avait de la poudre dans des mouchoirs, dans des bonnets, dans des poches, et au milieu de ces gibernes vivantes se promenaient les artilleurs avec leurs mèches allumées. Toute l'armée n'a pas sauté en l'air pendant cet étrange voyage, il y a bien certainement eu miracle. Maillard, d'un coup d'œil, a apprécié les dispositions de son armée. Il voit que tout ce qu'il peut faire, c'est non pas de la contenir sur la place, non pas de l'enchaîner à Paris, mais de la conduire à Versailles et, arrivé là, d'empêcher le mal qu'elle pourrait y faire. Cette tâche difficile, cette tâche héroïque, Maillard la remplira. En conséquence, Maillard descend, il prend le tambour suspendu au cou de la jeune fille. Mourante de faim, la jeune fille n'a plus la force de le porter. Elle abandonne le tambour, glisse le long du mur et tombe la tête sur une borne. Sombre oreiller, oreiller de la faim. Maillard lui demande son nom. On l'appelle Madeleine Chambry. Elle sculptait en bois pour les églises. Mais qui pense maintenant à doter les églises de ces beaux meubles en bois, de ces belles statues, de ces beaux bas-reliefs chefs-d'œuvre du XVe siècle? Mourante de faim, elle s'est faite bouquetière au Palais Royal. Mais qui songe à acheter des fleurs quand l'argent manque pour acheter du pain? Les fleurs, ces étoiles qui brillent au ciel de la paix et de l'abondance, les fleurs se fanent au vent des orages et des révolutions. Ne pouvant plus sculpter ses fruits de chêne, ne pouvant plus vendre ses roses, ses jasmins et ses lys, Madeleine Chambry a pris un tambour et elle a battu ce terrible rappel de la faim. Elle viendra à Versailles, celle qui a rassemblé toute cette triste députation. Seulement, comme elle est trop faible pour marcher, elle ira en charrette. Arrivée à Versailles, on demandera qu'elle soit introduite au palais avec 12 autres femmes. Elle sera l'orateur. Affamée, elle plaidera près du roi la cause des affamés. On applaudit à cette idée de Maillard. Ainsi, voilà Maillard qui, d'un mot, a déjà changé toutes les dispositions hostiles. On ne savait pas pourquoi on allait à Versailles, on ne savait pas ce qu'on allait y faire. Maintenant, on le sait, on va à Versailles pour qu'une députation de 12 femmes, Madeleine Chambry en tête, aille supplier le roi, au nom de la faim, de prendre pitié de son peuple. 7000 femmes à peu près sont réunies, elles se mettent en marche, elles suivent les quais. Seulement, arrivées aux Tuileries, de grands cris se font entendre. Maillard monte sur une borne afin de dominer toute son armée. « Que voulez-vous » demande-t-il. « Nous voulons traverser les Tuileries. »« Impossible !» répond Maillard. « Et pourquoi impossible ?» crient 7000 voix. « Parce que les Tuileries, c'est la maison du roi et le jardin du roi. Parce que les traverser, sans la permission du roi, c'est insulter le roi. C'est plus que cela, c'est attenter dans la personne du roi à la liberté de tous. » « Eh bien, soit, dirent les femmes, demandez la permission au Suisse. » Maillard s'approcha du Suisse et, son tricorne à la main, « Mon ami, voulez-vous que ces dames traversent les Tuileries? On ne passera que sous la voûte et il ne sera fait aucun dommage aux plantes ni aux arbres du jardin. » Pour toute réponse, le Suisse tire sa longue épée et fond sur Maillard. Maillard tire la sienne d'un pied plus court et croise le fer. Pendant ce temps, une femme s'approche du Suisse et, d'un coup de manche à balai sur la tête, l'étend aux pieds de Maillard. Maillard rengaine son épée, prend celle du Suisse sous un bras, prend le fusil de la femme sous l'autre, ramasse son tricorne tombé dans la lutte, le replace sur sa tête et continue son chemin à travers les Tuileries où, selon la promesse par lui faite, aucun dégât n'est commis. Laissons-les continuer leur chemin à travers le cours La Reine et s'acheminer vers Sèvres, où elles se séparent en deux bandes, et voyons un peu ce qui se passait à Paris. Ces 7000 femmes n'avaient pas failli noyer les électeurs, pendre l'abbé Lefebvre et Maillard et brûler l'hôtel de ville, sans faire un certain bruit. À ce bruit, qui avait eu son retentissement jusque dans les quartiers les plus éloignés de la capitale, Lafayette était accouru. Il passait une espèce de revue au Champ de Mars. Depuis 8 heures du matin, il était à cheval, il arriva sur la place de l'hôtel de ville comme sonnait midi. Les caricatures du temps représentaient Lafayette en centaure. Le corps était celui du fameux cheval blanc devenu proverbial. La tête était celle du commandant de la garde nationale. Depuis le commencement de la Révolution, Lafayette parlait à cheval, Lafayette mangeait à cheval, Lafayette commandait à cheval. Il lui arrivait même souvent de dormir à cheval. Aussi, quand il lui arrivait par chance de dormir dans son lit, Lafayette dormait bien. Quand Lafayette arriva sur le quai Pelletier, il fut arrêté par un homme qui partait au grand galop d'un excellent cheval de course. Cet homme était Gilbert. Il partait pour Versailles, il allait prévenir le roi de ce dont il était menacé et se mettre à sa disposition. En deux mots, il raconta tout à Lafayette, puis chacun continua son chemin. Lafayette vers l'hôtel de ville, Gilbert vers Versailles. Seulement, comme les femmes suivaient la rive droite de la Seine, lui prit la rive gauche. La place de l'hôtel de ville, vide de femmes, s'est remplie d'hommes. Ces hommes, c'étaient des gardes nationaux, soldés ou non soldés, d'anciens gardes françaises surtout, qui, passés dans les rangs du peuple, avaient perdu leur privilège de garde du roi, privilège dont avaient hérité les gardes du corps et les Suisses. Au bruit que faisaient les femmes avait succédé le bruit du tocsin et la générale. Lafayette traversa toute cette foule, mit pied à terre au bas des degrés, et, sans s'inquiéter des applaudissements mêlés de menaces qu'excitait sa présence, il se mit à dicter une lettre au roi sur l'insurrection qui avait eu lieu le matin. Il en était à la 6e ligne de sa lettre lorsque la porte du secrétariat s'ouvrit violemment. Lafayette leva les yeux, une députation de grenadiers demandait à être reçue par le général. Lafayette fit signe à la députation qu'elle pouvait entrer. Elle entra. Le grenadier, chargé de porter la parole, s'avança jusqu'à la table. « Mon général, dit-il d'une voix ferme, nous sommes députés par les 10 compagnies de grenadiers. Nous ne vous croyons pas un traître, mais nous croyons que le gouvernement nous trahit. Il est temps que tout cela finisse. Nous ne pouvons pas tourner nos baïonnettes contre les femmes qui nous demandent du pain. Le comité des subsistances malverse ou est incapable. Dans l'un ou l'autre cas, il faut le changer. Le peuple est malheureux, la source du mal est à Versailles. Il faut aller chercher le roi et l'amener à Paris. Il faut exterminer le régiment de Flandre et les gardes du corps qui ont osé fouler aux pieds la cocarde nationale. Si le roi est trop faible pour porter la couronne, qu'il la dépose. Nous couronnerons son fils. On nommera un conseil de régence et tout ira au mieux. » Lafayette, étonné, regarde l'orateur. Il a vu des émeutes, il a pleuré des assassinats, mais c'est la première fois que le souffle révolutionnaire lui frappe en réalité le visage. Cette possibilité que voit le peuple de se passer de roi l'étonne, fait plus que l'étonner, le confond. « Et quoi ? S'écrie-t-il. Avez-vous donc le projet de faire la guerre au roi et de le forcer à nous abandonner ?»« Mon général, répond l'orateur, nous aimons et nous respectons le roi. Nous serions bien fâchés qu'il nous quittât, car nous l'aimons beaucoup. Mais enfin, s'il nous quittait, nous avons le dauphin. » « Messieurs, messieurs, dit Lafayette, prenez garde à ce que vous dites. Vous touchez à la couronne, et il est de mon devoir de ne pas le souffrir. » « Mon général, répliqua le garde national en s'inclinant, nous donnerions pour vous jusqu'à la dernière goutte de notre sang. Mais le peuple est malheureux. La source du mal est à Versailles. Il faut aller chercher le roi et l'amener à Paris. Le peuple le veut. » Lafayette voit qu'il lui faut payer de sa personne. C'est une nécessité devant laquelle il n'a jamais reculé. Il descend au milieu de la place de l'hôtel de ville et veut haranguer le peuple, mais les cris « À Versailles, à Versailles !» couvrent sa voix. Tout à coup, une grande rumeur se fait entendre du côté de la rue de la Vannerie. C'est Bailly qui se rend à l'hôtel de ville à son tour. À la vue de Bailly, les cris « du pain, à Versailles, à Versailles !» éclatent de tous côtés. Lafayette, à pied, perdu dans la foule, sent que le flot monte de plus en plus et va l'engloutir. Il fend la foule pour arriver à son cheval avec une ardeur pareille à celle du naufragé qui fend la vague pour arriver à un rocher. Il l'atteint, s'élance en selle et le pousse du côté du perron, mais le chemin est complètement fermé entre lui et l'hôtel de ville. Des murailles d'hommes ont poussé. « Morbleu, mon général !» crient ces hommes. « Vous resterez avec nous !» En même temps, toutes les voix crient « À Versailles ! À Versailles !» Lafayette flotte, hésitant. Oui, sans doute, en se rendant à Versailles, il peut être très utile au roi, mais sera-t-il le maître de toute cette foule qui le pousse à Versailles? Maîtrisera-t-il ces vagues qui lui ont fait perdre la terre du pied et contre lesquelles il sent qu'il lutte lui-même pour son propre salut? Tout à coup, un homme descend des degrés du perron, fend la foule, une lettre à la main, fait si bien des pieds et des mains, et surtout des coudes, qu'il arrive jusqu'à Lafayette. Cet homme, c'est l'infatigable Billot. Tenez, général, dit-il, voilà de la part des 300. C'est ainsi qu'on appelait les électeurs. Lafayette rompt le cachet et essaye de lire la lettre tout bas, mais 20 000 voix ensemble crient, la lettre, la lettre! Force est donc à Lafayette de lire la lettre tout haut. Il fait un signe pour demander qu'on se taise. Au même instant, comme par miracle, le silence succède à cet immense tumulte, et sans qu'on en perde un mot, Lafayette lit la lettre suivante. Vu les circonstances et le désir du peuple, et sur la représentation de monsieur le commandant général, qu'il était impossible de s'y refuser, elle autorise monsieur le commandant général, et même lui ordonne, de se transporter à Versailles. Quatre commissaires de la commune l'accompagneront. Le pauvre Lafayette n'avait absolument rien représenté à messieurs les électeurs, qui n'étaient point fâchés de lui laisser une portion de la responsabilité des événements qui allaient se passer. Mais le peuple, lui, crut qu'il était représenté réellement, et le peuple, avec le vœu duquel cette représentation de son commandant général était en harmonie, le peuple cria « Vive Lafayette !» Alors Lafayette, pâlissant, répéta à son tour « À Versailles !» 15 000 hommes le suivirent avec un enthousiasme plus silencieux mais plus terrible en même temps que celui des femmes parties en avant-garde. Tout le monde devait se rejoindre à Versailles pour demander au roi les miettes de pain tombées de la table des gardes du corps pendant l'orgie du 1er au 2 octobre.